France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Sa première interview à la radio. C'était pour Choisissez votre rôle, une série des années 50. Alors, elle est toute jeune, elle semble très à l'aise, elle est déjà très elle-même, et elle a évidemment sa voix envoûtante. Alors elle fait du théâtre, elle aimerait beaucoup faire du cinéma, et le producteur de l'émission, Roger Iglesias, est certain que le cinéma fera appel à elle très bientôt. Nous, aujourd'hui, nous connaissons la suite. Nous allons l'entendre, elle, en entretien et dans une scène de Giraudoux. Choisissez votre rôle, Delphine Seyrig. Première diffusion sur les ondes nationales, la chaîne s'appelait France 4, le 5 février 1956.
Choisissez votre rôle. Présentation de jeunes comédiens dans les rôles de leur choix.
Aujourd'hui, Delphine Seyrig, dans Tessa de Jean Giraudoux, et dans Roméo et Juliette de Shakespeare, rôle de Juliette, avec le concours de Jean Bollot, production de Roger Iglesias. Delphine Seyrig, mince, longue, l'œil rêveur, soudain brillant de rire, fin visage, nez moqueur, ressemble à Catherine Hepburn. Signe particulier, une voix toujours voilée de brouillard qui a le charme des paysages inaccessibles, un air jeune fille d'autrefois, l'air de son prénom, Delphine.
Après avoir travaillé avec Roger Blin, Pierre Bertin et Tania Balachova, Delphine Seyrig débuta en 1952 au Théâtre du Quartier Latin dans L'amour en papier de Louis Ducreux avec la compagnie Michel Deray.
Jean Dasté l'engage ensuite à la Comédie de Saint-Étienne où elle joue Chérubin du Mariage de Figaro, Montserrat d'Emmanuel Robles, et une pièce de Jacques Copeau, L'Illusion.
En 1953, Delphine Seyrig joue avec le Centre de l'Est, Tessa et Eliante du Misanthrope. L'été suivant, elle joue après Odile Versoix le rôle d'Ondine représenté au Jardin de Shakespeare du Pré-Catelan.
En 1955, c'est d'abord au Noctambule la première surprise de l'amour de Marivaux, rôle de Colombine, puis avec Jean Dasté à Saint-Étienne, La Tempête, rôle d'Ariel, au Théâtre en rond, Les Poissons d'or de René Aubert, et enfin au Théâtre de l'Œuvre, Le mari idéal d'Oscar Wilde.
Après les représentations de La Tempête au Théâtre des Célestins, on pouvait lire dans la presse lyonnaise Delphine Seyrig, avec son petit visage d'argent, ses gestes d'une grâce aérienne, la souplesse féerique de ses mouvements, a créé un Ariel d'une merveilleuse légèreté que l'on n'oubliera pas de sitôt.
Delphine Seyrig, expressive jusqu'au bout des doigts, a su donner une réalité à cet esprit, cet Ariel qu'elle incarnait avec beaucoup de poésie et d'imagination.
Et après les représentations de Tessa en Alsace,
Delphine Seyrig doit son succès à sa voix, à son allure, mais aussi à des qualités plus profondes, à son intelligence du rôle et des situations, et surtout à un don absolu de soi-même.
Delphine Seyrig, comment avez-vous eu le désir de faire du théâtre ?
Eh bien, j'allais au théâtre pour la première fois à 11 ans et on donnait La Tempête de Shakespeare. Et je suis sortie de là en disant à ma mère que j'aimerais beaucoup devenir actrice pour jouer du Shakespeare.
Et si votre mère vous avait répondu que quelques années plus tard, vous seriez l'interprète d'Ariel, vous auriez été bien contente.
Oui, surtout que c'était justement la pièce que je venais de voir, mais je ne m'en doutais vraiment pas.
Et vos parents ne se sont pas opposés à ce désir de...
Non, jamais, non. Enfin, ils avaient envie que je passe mon bachot et que je fasse un minimum d'études, mais ils ne demandaient qu'une chose, c'est que je fasse quelque chose qui m'intéresse vraiment.
Eux-mêmes étaient intéressés par des métiers artistiques,
disons,
des carrières.
Mon père est archéologue et il était prêt à me voir devenir comédienne, tout à fait prêt.
Et la nostalgie du passé n'a pas joué un rôle dans votre choix de cette carrière, enfin l'habitude tout au moins d'être entourée par des souvenirs anciens?
Ou peut-être, mais je n'ai jamais eu l'occasion encore de travailler beaucoup des rôles de pièces antiques, justement. J'aimerais beaucoup d'ailleurs, mais enfin, ce n'est pas ça qui a dirigé en tout cas mes goûts au théâtre, je ne crois pas. Ça se peut sans que je le sache.
En tous les cas, vous avez débuté dans une curieuse et charmante pièce de Louis Ducreux, L'amour en papier. Quelle a été votre première réaction quand vous vous êtes trouvé devant un public?
Oh, heureusement, c'était une pièce comique et les réactions... C'est les réactions du public qui m'ont surprise, parce que je n'avais jamais réfléchi en travaillant, en répétant, que j'aurais peut-être à m'arrêter de parler pendant que les gens riaient, et ça m'a surpris énormément et agréablement.
Mais ça n'était pas quand même une gêne?
Oh non, pas du tout, non.
L'amour en papier, je crois, était un spectacle plus proche du cabaret que du théâtre. Est-ce que vous aimeriez faire du cabaret?
Oh, j'aimerais énormément. J'ai beaucoup d'admiration pour les comédiens qui font du cabaret. Je ne sais pas si je suis très douée pour ça, mais j'aimerais énormément en faire.
Je crois que de toute façon, c'est une très bonne école pour un comédien.
Oh oui, en tout cas.
Quel rôle aviez-vous dans L'amour en papier?
Eh bien, j'en avais plusieurs. Entre autres, je jouais une femme robot, une jeune fille robot, amoureuse du héros de la pièce, qui était un coureur cycliste, que jouait Jean-Marc Thibault. Et je jouais un chat. Ça m'amusait beaucoup.
Qu'est-ce que vous aviez à faire? Vous griffiez?
Non, je miaulais de temps en temps. C'était un chat pris dans une enquête policière. C'était assez drôle.
Mais en dehors des chats, quel genre de personnage aimeriez-vous interpréter?
Toutes les héroïnes, forcément, des pièces de Shakespeare que tout le monde a envie de jouer. Les héroïnes de Giraudoux, bien sûr, toutes les pièces antiques, mais je ne sais pas si je peux les jouer maintenant. Je pense que c'est toutes des choses que je pourrais peut-être jouer plus tard. Mais...
Vous avez fait d'autre part l'expérience du théâtre en rond. Aimez-vous jouer dans le rond?
Oui, c'est très intéressant, mais je crois qu'il faut s'y habituer. Je n'ai pas eu beaucoup le temps de m'y habituer. Je pense que c'est surtout une question d'habitude. C'est très difficile.
Ça n'est pas une gêne pour le comédien de sentir le public dans son dos, enfin de...
C'est un peu... Si, c'est difficile, c'est une gêne. C'est une gêne, mais certainement, au contraire, ça peut aider si on en prend vraiment l'habitude, si on est accoutumé à ça. Mais pour l'instant, le théâtre à l'italienne m'est plus facile.
Oui. Et le cinéma?
Ah, j'aimerais beaucoup faire du cinéma. Je n'en ai jamais fait. J'aimerais énormément en faire. Je pense que c'est très important à notre époque.
Oui, de toute façon, dans une carrière, le cinéma n'est pas à négliger. Mais il fera appel à vous très bientôt, j'en suis persuadé.
Oui, j'espère.
Avez-vous aimé travailler le dernier rôle que vous avez joué?
Le
mari idéal.
Oh, j'ai adoré ce rôle. C'est un rôle très amusant, comique. Une petite jeune fille élevée dans la haute société de Londres. Et... qui n'est pas encore très bien apprivoisée, qui a des éclats de temps en temps qui paraissent curieux dans les salons londoniens. Mais on imagine bien que ça se tassera et qu'elle deviendra une dame comme les autres. Mais enfin, c'est rigolo parce qu'elle est jeune et que...
Vous avez pourtant choisi un personnage bien différent aujourd'hui, puisque vous allez nous donner Tessa et Juliette de Roméo et Juliette.
Ah oui, mais j'ai joué très peu de rôles comiques au fond. J'ai joué simplement ce rôle dans Le mari idéal et Colombine de La surprise d'amour de Marivaux. Sinon, c'était plutôt des rôles pas forcément dramatiques, mais Tessa, c'est quand même pas très comique. Alors. J'ai choisi Tessa parce que c'est une pièce que j'ai énormément aimé jouer et Juliette parce que c'est une pièce que j'aimerais énormément jouer.
C'est comme c'est justement le but de cette émission, de fournir l'occasion d'en donner un extrait. Nous sommes contents de vous entendre. Et nous allons maintenant écouter, si vous le voulez bien, Tessa. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs la situation qui précède la scène?
Oui, Tessa Sanger a été élevée avec ses frères et sœurs par un père bohème dans un chalet au Tyrol. Et elle y a connu... Louis Dodd, qui est un musicien ami de son père. Et Tessa a toujours aimé Louis, qui ne voyait pas du tout l'amour que lui portait cette petite jeune fille. Et Louis épouse une riche Anglaise, Florence Churchill, après la mort du père de Tessa. Mais cette union qui est bourgeoise est pour lui une prison, et il comprend à ce moment-là l'amour que Tessa lui porte. Et tous deux s'enfuient, quittent l'Angleterre pour se réfugier en Belgique, et on les voit arriver dans une chambre d'hôtel vulgaire. Et c'est le décor de la dernière scène que vous allez entendre.
C'est donc la scène qui se passe dans l'auberge.
Oui.
Le rôle de Lewis est tenu par Jean Bolot. Delphine Seyrig, nous vous écoutons.
Quelle vieille sorcière! Je ne me la rappelais pas aussi dégoûtante, ni sa maison.
Elle est drôle. Je l'aime mieux que Gabrielle. Gabrielle a sûrement dû faire souffrir maman.
Ce qui m'étonne, c'est que tu la trouves drôle. Elle a raison quand elle dit que tu t'entends bien avec elle. Tu ne comprends pas la moitié de ce qu'elle te dit, et tu bavardes comme avec une vieille amie.
Quand je suis avec toi, plus rien ne me gêne. Tout le monde est pour moi comme une comédie, ou plutôt cette comédie qu'est le monde devient vivante. Elle est vivante dans son rôle, cette vieille fée.
On demande à la revoir.
Plus il y a de gens autour de nous, plus je me sens seule avec toi. Tu veux ouvrir la fenêtre, chérie, j'ai tout. Oh, Louis, je me sens si mal.
Ça m'étonnerait qu'il en fût autrement, après cette traversée épouvantable. Tu n'as pas mangé depuis 24 heures. Tu vas bien dîner, tu vas t'étendre, tu vas bien dormir, et demain, tout sera parfait. Tu ne crois pas?
Oui, demain, tout sera parfait. Mais pour dormir, j'en doute. C'est du marbre, ce lit.
J'ai couché dans plus dur que ça. Mais c'est exact que je n'imaginais pas ainsi notre lit. Pourquoi diable t'ai-je amené ici?
Parce que j'y serais venue moi-même si j'avais été seule. Parce que c'est une place sans guerre.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Il y a dans le monde un certain nombre d'endroits où la famille Sanger est chez elle, que ce soit Tony ou Sébastien ou même Linda ou toi.
Oui. Et ils sont sordides en général.
Oh non, notre chalet du Tyrol n'était pas sordide. Le soleil sur les montagnes n'était pas sordide, ni la neige. C'était pourtant un chalet sans guerre, un soleil sans guerre. C'est dans ces lieux-là que nous pouvons vivre ou mourir. Ailleurs, cela nous est impossible. Ici, j'avoue que c'est un lieu sans guerre, bien qu'il soit sordide.
Tu n'en as pas trouvé en Angleterre?
Non, toi non plus. Je n'ai trouvé de lieu sans guerre en Angleterre que la chambre d'hôtel de Tony, avec sa vieille sage-femme, ses bonbons dans les draps et sa musique déchirée. C'est pour cela que tu m'as emmenée. Pour que nous puissions vivre dans des lieux sans guerre.
C'est bien possible.
Oh, tu as fait ça inconsciemment. Tu ne sais même pas ce que l'on y trouve.
Tu le sais, toi?
Je crois qu'on y trouve une espèce d'égalité avec tout ce qui est beau et de communauté avec tout ce qui est laid.
Si tu trouves du beau ici...
Oh oui, il y a ce petit rayon sur la vitre.
Il y est pour 10 minutes encore, à peu près.
Alors, il y a nous.
Et je n'ai pas l'impression que nous y resterons beaucoup plus longtemps. Je vais te chercher une autre chambre.
Ne prends pas cette peine. Toutes nos chambres seront pareilles. Elles auront toutes de la musique par terre et des souliers sur la cheminée.
Tu es toute pâle, ma petite Tessin.
Je ne suis pas bien, Louise. Je suis malade et légitime.
Nous chercherons un autre hôtel dès que tu seras reposée.
Oh non, j'ai affaire ici. J'ai à déchirer la photo de Gabrielle.
C'est un trop sale endroit.
Ça ne peut rien nous faire tant que nous sommes ensemble.
Je n'en suis pas si sûr. Excuse-moi de t'y avoir emmené. Mais tu m'as pris par surprise. J'étais si loin de penser qu'en une soirée, tu pourrais changer aussi complètement d'avis.
Moi aussi.
Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, Tessa? Tu ne me l'as pas encore dit.
Et je ne te le dirai jamais.
Pourquoi?
Ce n'est pas un sujet de conversation.
Dis-le-moi.
Plutôt crevé, cher monsieur.
Dis-le-moi, ma petite chérie.
Quand les grenouilles auront une queue, tu auras des chances de le savoir.
Je sais pourquoi. Parce que tu as eu une peur.
Tu brûles.
Quand tu as peur, il y a deux curieuses petites lampes qui s'allument au milieu de tes yeux. Elles étaient allumées quand je t'ai trouvé au théâtre.
Tu me fais penser que je dois le taxi à Roberto.
Peur ou honte? Une grande peur ou une grande honte?
Laisse-moi seule un moment, je ne vais pas bien.
Tu es comme un enfant qui a vu un crime. C'est Florence qui t'a dit quelque chose, n'est-ce pas?
Laisse donc Florence tranquille.
Vous vous êtes querellée? Mais parle donc, pourquoi ne veux-tu rien me dire?
Les hommes n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe entre les femmes.
Tu es une curieuse créature. Les grossièretés de la mère Masse ne t'atteignent pas et un mot de cette personne bien élevée qu'est Florence a pu te mettre dans cet état?
À travers ce que dit la mère Masse, je vois l'idée qu'elle a de nous.
Qu'est-ce qu'elle pense de nous, la mère Masse?
C'est très gentil. À travers sa vie dégoûtante, sa conversation grossière, elle pense quelque chose de vague, d'innocent. Que je suis ton rêve, que tu es mon caprice.
Florence aussi, sûrement.
Non, Florence, c'est l'inverse.
À travers sa vie modèle, sa conversation élégante, elle nous voit...
Tais-toi! Dis-moi, Louise.
Quoi, ma chérie?
Comment appellerais-tu ce que je suis pour toi s'il ne s'agissait pas de nous?
Tu veux dire, si ce n'était pas moi ton amant, ce que je dirais de toi?
Oui. Je t'ai entendu donner des noms assez vilains à d'autres femmes.
Si tu veux, nous allons faire un pacte, ma petite chérie. Est-ce que cela t'arrangerait que, toute ma vie, je n'appelle plus une femme d'un nom qui te choquerait?
Tu pourras?
Je crois que je pourrais. J'essaierai de penser que toute femme peut être à un homme ce que tu es pour moi.
Merci pour la communauté. Ça ne te fâche pas, dis que j'ai voulu savoir. C'est ça. Tiens-moi bien. Empêche-moi de glisser.
De glisser?
De glisser sur l'étoile.
Est-ce que tu racontes?
Oui, j'ai tout à coup l'impression que nous sommes une étoile. C'est vrai, d'ailleurs.
Une sacrée étoile.
Jamais je n'y avais pensé auparavant. Mais quand on y a pensé, il n'y a plus moyen de faire autrement. Comme on la sent tourner, tourner dans l'espace. Et elle scintille, et elle fait la belle. Tu te sens glisser aussi un peu maintenant, n'est-ce pas? Tiens-moi bien. L'agréable, c'est que nous sommes tous deux seuls sur elle. Seuls vivants, seuls réels. Nous n'allons pas être longtemps, mais nous le sommes. Rien derrière nous, rien devant nous. Oh Louise, quel est le moyen de faire qu'une petite seconde devienne toujours?
C'est ce que nous allons essayer de trouver maintenant.
Qu'est-ce que tu crois qui va arriver, Louise?
Que nous allons choisir des lieux singuliers avec soleil et bon sommier, et que nous allons être heureux.
Moi, j'ai l'impression qu'il n'arrivera plus jamais rien.
Je l'espère, ma petite Tessa.
Tu ne me comprends pas. J'ai l'impression que tout est arrivé.
Tu sens que nous ne trouverons plus d'obstacles? Moi aussi.
Non, j'ai une drôle d'impression, Louise. J'ai l'impression d'avoir fini ma carrière. Ce que ma mère a fait avec Sanger en 40 ans, j'ai le sentiment que je l'ai fait avec toi et j'ai 17 ans. Comme si ma carrière avait été de t'aimer tant que tu ne saurais pas que tu m'aimes.
Je le sais maintenant.
Aussi ma carrière est finie.
Il ne te reste plus que la vie entière. Où est-il ton journal qui m'a appris que je t'aimais?
Pas très loin.
Tu as oublié ton nécessaire et tu as ton journal.
Ne t'en moque pas, c'est mon bien le plus cher.
Il est court, tu sais. Et il y a bien des oublis.
C'est que ma vie n'est pas très longue et que je n'ai pas vécu tous les jours.
Regarde la belle page blanche.
Oui, c'est aujourd'hui. Tiens, la cloche sonne, c'est sûrement le dîner, descends vite.
Je descendrai si tu descends.
Je n'ai pas faim. Dîne vite et apporte-moi un peu de bouillon. Ou envoie-le-moi par Gabriel, j'aime bien parler avec Gabriel. Il me reste pas mal à lui dire.
Je te l'apporte tout de suite.
Si je meurs, les oiseaux ne se tairont qu'un soir. Si je meurs, pour une autre un jour tu m'oublieras.
Allez Tessa, refais ton paquet, nous partons.
Pourquoi, tout de suite?
Tout de suite! Tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est au-delà de cette porte et le bruit et l'odeur.
Les tables d'argent t'a gâté.
C'est possible, mais nous partons.
Pour où?
Pour l'Angleterre.
Tu es fou, je pense.
Je te ramène à ton oncle, il t'aime, il t'accueillera avec joie.
Ce n'est pas dans le programme, Louise.
J'ai bien réfléchi, ma Tessa chérie.
Il y a deux moments où tu commets des sottises irrémédiables, quand tu ne réfléchis pas et quand tu réfléchis. Regarde-moi, Louise. Ai-je une mine à reprendre le bateau?
Alors je vais te mettre pour la nuit dans quelques couvents.
Un couvent?
Le plus grand que nous pourrons trouver.
Essaye, tu ne me sortiras pas vivante de cette maison.
Soyons raisonnables, Tessa.
Je suis partie avec toi parce que c'était le plus juste, parce que c'était le meilleur, parce que c'était le plus raisonnable, je resterai avec toi.
Justement, je ne suis pas sûre que ce soit le plus juste.
Ce que tu dis n'a aucune importance.
Je dis ce que je pense.
Tu n'as jamais pensé que des stupidités toute
raison
ta vie.
Raison de plus pour que je sois sensée maintenant.
Ici, c'est moi qui décide, on ne change pas d'avis comme de chemise.
Tu n'as pas changé d'avis hier?
J'ai changé de tout hier, de corps, d'âme. C'est fait maintenant, je ne changerai plus jamais.
Ma petite Tessin.
Nous nous sommes sauvés, nous n'avons plus qu'une raison à notre existence, nous sauver, nous sauver.
Pense un peu à toi, Tessa.
Je n'ai jamais eu qu'une façon de penser à moi, c'est de penser à toi. Je ne te laisserai plus tout perdre en bavardage et en piétinement. Tu ne comprendras donc jamais, Louise.
Comprendre quoi?
Que nous allons avoir à tout recommencer si tu renonces une seconde fois. Rappelle-toi la première.
Quelle première fois?
Tu vois? Tu ne t'en es même pas douté. La nuit où Sanger mourut, je t'ai parlé ce soir-là. Mais tu n'as jamais rien voulu comprendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Voyons, Tessa, calme-toi. Ce n'est pas trop tard aujourd'hui.
En es-tu bien sûr? En es-tu bien sûr? Oh, mon amour, mon cruel amour, je ne pourrais pas le supporter.
Imagine.
Je ne veux pas te quitter, je ne veux pas, je ne veux pas.
C'est entendu, tu ne me quitteras pas. Mais ne pleure plus, je ne te reconnais plus quand tu pleures.
Embrasse-moi. Embrasse-moi. Encore.
Encore, comme si jamais plus tu ne devais m'embrasser. Oh, c'est ça le bouton, je suis si mal avec ma robe.
Attends chérie, je vais t'aider.
Voilà. Va dîner maintenant. Ou mets-toi dans un coin que je puisse t'oublier une minute.
Bien.
Qu'est-ce que tu fais?
J'écris à ton oncle.
Qu'as-tu à lui dire? Tu sais bien que tu n'as jamais pu écrire une lettre.
Je veux qu'il sache où tu es. Je suppose qu'il m'arrive quelque chose. Les tramways vont vite ici.
Si les tramways avaient dû t'écraser, ce serait fait depuis la première fois où tu as été dans une rue.
Et que feras-tu, seul ici?
Quand je serai seul, je me poserai la question.
J'aime mieux lui écrire.
Écris-lui donc. Dis-lui par la même occasion que je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais.
Je lui mets deux lignes seulement pour le mettre au courant. Dicte-moi la première phrase, chérie. Si tu me dictes la première, il y a les plus grandes chances pour que j'achève la seconde.
On étouffe ici.
Tu n'as qu'à ouvrir la fenêtre.
Je ne peux pas l'ouvrir, elle est trop dure.
Tire par le haut. Je te propose ça, Tessa. Écoute. Cher Charles, j'aime votre nièce.
Très bien.
Tu n'es pas difficile. Tu ne crois pas que ce serait un peu moins bête si je mettais... Cher Charles, votre nièce et moi, nous nous aimons.
Oui, ce serait un peu moins bête.
Ou encore, cher Charles, votre nièce m'aime. J'épuise les combinaisons, n'est-ce pas?
C'est ça, épuise.
Et dès que la situation sera arrangée, nous nous marierons. Qu'en dis-tu? Je crois que c'est la plus longue que j'ai écrite de ma vie. Tessa, tu t'es évanouie?
Tessa, chérie, ne m'effraie pas ainsi. Oh, que Dieu me protège, elle meurt. Madame Mars, Tessa, regarde-moi, parle-moi.
La fenêtre, Louise.
Après cette scène de Tessa, nous allons vous entendre, Delphine Seyrig, dans Roméo et Juliette. Pouvez-vous nous dire à quel moment se situe la scène que vous allez nous donner?
Oui, Roméo et Juliette ont demandé aux frères Laurent de les marier secrètement parce que leurs familles sont ennemies. Et le père de Juliette décide, après ce mariage secret, de la marier à un seigneur de Vérone. Alors Juliette court chez le frère Laurent lui demander secours, et celui-ci lui donne une fiole contenant une drogue qui l'endormira et fera croire à tous qu'elle est morte. On l'enterrera, et Roméo viendra la chercher dans le caveau et l'emmènera avec lui hors de Vérone. Et Juliette, la situation est Juliette dans sa chambre à la veille du mariage. Elle vient de choisir avec sa nourrice ses parures pour le lendemain. Et elle renvoie sa nourrice pour rester seule et exécuter ce qu'elle a promis de faire.
C'est-à-dire pour boire la...
drogue en question.
Nous vous écoutons.
Oui, ses parures sont les plus jolies. Mes gentilles nourrices, je t'en prie, laisse-moi cette nuit seule avec moi-même. Car j'ai besoin de dire beaucoup d'oraisons pour implorer le ciel, afin qu'il sourie à ma situation, qui est, tu le sais, trouble et pleine de péchés. Adieu. Dieu sait quand nous nous reverrons. J'ai une frayeur froide et vague qui circule dans mes veines et glace presque la chaleur de vie. Je vais les rappeler pour me rendre courage. Nourrice! Quoi faire? Ma scène horrible, il faut la jouer seule. Viens, fiole. Et si la drogue ne produisait rien? Serais-je alors mariée demain matin? Non, non. Voilà qui l'empêchera. Toi, reste là. Et si c'était un poison que le frère m'aurait donné par tromperie, pour m'avoir morte? Craignant par ce mariage être déshonoré parce qu'il m'a mariée avant à Roméo. Je le crains. Et pourtant, ça ne peut pas être, il me semble. Il a toujours été connu comme un saint homme. Et si, quand je serai couchée dans le tombeau, je m'éveillais avant le temps où Roméo viendra me délivrer? C'est une horrible idée. Ne vais-je pas être étouffée dedans la tombe, dont la hideuse bouche ne respire jamais d'air sain? Et la mourir suffoquée, avant que vienne mon Roméo, ou si je vis. N'est-il pas bien possible que l'horrible pensée de la mort et de la nuit, tout ensemble avec l'épouvante du lieu, Un caveau, un réceptacle où depuis des centaines d'années, les os des ancêtres ensevelis sont entassés, où Tybalt ensanglanté, encore tout frais à la terre, se tient pourrissant dans son suaire. Où, à ce que l'on dit, à certaines heures de la nuit, reviennent les esprits. Hélas, hélas, n'est-il pas possible que moi, réveillée trop tôt dans ces odeurs infectes et ces cris, comme ceux de la mandragore arrachée de terre, qui font que les vivants les entendant deviennent fous. Oh, si je me réveille, je perds de la raison, environnée par toutes ces hideuses frayeurs. Et follement, je jouerai avec les ossements des ancêtres. J'arracherai le Tybalt mutilé de son linceul, et dans ma rage, avec les os de quelque ancien parent, servant de massue, je fracasserai ma cervelle désespérée. Oh, regardez, il me semble que je vois l'ombre de mon cousin, poursuivant partout Roméo, qui a embroché son corps sur la pointe d'une épée. Arrête, Tybalt, arrête! Roméo, je viens! C'est à toi que je bois, Roméo.
C'était « Choisissez votre rôle ». Aujourd'hui, Delphine Seyrig dans « Tessa » de Giraudoux et dans « Roméo et Juliette » de Shakespeare, avec le concours de Jean Bollot, production de Roger Iglesis.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur les ondes nationales le 5 février 1956.